On est lundi ou mardi ?
Peu importe, Mimi. Les deux jours, il y a la JT du local.
Oh, comme moi, je pense que vous l'avez déjà fait. Tendre l'oreille dans un café, pas dans l'idée d'être indiscret, non, juste pour écouter le bruit des conversations autour. Ça se mélange, ça s'entrechoque, un rire par-ci, une dispute par-là, des histoires d'amour à la table du fond, et puis quelqu'un qui s'indigne à propos des impôts ou du voisin. C'est un chaos organisé ou plutôt désorganisé, et bizarrement, ça ressemble beaucoup à une démocratie. Parce qu'une démocratie, ce n'est pas une salle de réunion où tout le monde lève la main bien sagement, c'est ce brouhaha d'idées, ce désordre de voix qui se croisent. Et le problème, c'est quand on n'a plus envie de parler, quand on se tait, quand on n'entre même plus dans le café. Alors comment on fait pour que ça continue de vibrer? Est-ce qu'on rajoute un peu de musique? Est-ce qu'on se raconte des histoires? Est-ce qu'on partage un jeu ou un spectacle? Peut-être que c'est ça l'éducation populaire, un art de remettre de la musique dans le brouhaha, de transformer un amas de voix en quelque chose qui danse, qui nous donne envie de rester à table. Justement, aujourd'hui on en parle avec Florine Olivier, chargée de projet jeunesse à la Ligue de l'Enseignement, qui co-organise la première édition du Festipop, un festival pensé comme un temps de partage et de transmission pour questionner ensemble ce que l'éducation populaire peut encore apporter à notre vie démocratique. Rendez-vous le 27 septembre pour cette toute première édition. Puis en seconde partie d'émission, à l'occasion du mois du climat proposé par le département de la Mayenne, nous recevons Nicolas Boileau, directeur du syndicat Javot. Il viendra nous parler de la restauration des zones humides, un outil précieux d'adaptation au dérèglement climatique à l'approche d'un temps de découverte prévu le 27 septembre au Bourgneuf-la-Forêt. Et comme chaque mardi, nous terminons l'émission avec notre chronique hebdomadaire, celle de Donatien qui se fait personnage quand le micro s'allume. Bienvenue à l'auditeur de l'autre radio. Je ne sais pas combien vous êtes justement autour de cette grande table aujourd'hui avec nous, mais vous êtes là. Nous sommes là. C'est ça, se donner rendez-vous. C'est ça la radio, une conversation intime qui fait semblant d'être publique. Moi, je suis Margot et vous écoutez l'agité du local.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Alors on parle souvent de fracture sociale, de décrochage citoyen d'une société où l'on ne se retrouve plus toujours, mais il existe aussi des espaces qui cherchent à recréer du lien, à remettre de la confiance et du collectif dans nos vies. C'est ce que propose justement le Festipop, premier festival de l'éducation populaire organisé le 27 septembre à Laval. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Florine Olivier, chargée de projet jeunesse à la Ligue de l'Enseignement, l'une des structures à l'initiative de l'événement. Bonjour Florine.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce qu'on entend par éducation populaire et pourquoi ce terme est encore d'actualité et hyper pertinent aujourd'hui ?
L'éducation populaire, c'est l'idée que chacun et chacune, tout au long de sa vie, peut apprendre, transmettre, s'émanciper en dehors du cadre formel. C'est ce qui guide la Ligue de l'Enseignement depuis 150 ans. À l'échelle nationale. Donc c'est une vieille association, la Ligue, qui est implantée en Mayenne depuis 1946. L'éducation populaire, l'idée de former les citoyens et citoyennes pour qu'ils soient et elles soient capables d'esprit critique, de solidarité et d'action.
Et alors, d'où est venue l'idée d'organiser justement le Festipop ici à Laval et qu'est-ce que la Ligue a voulu créer à travers ce rendez-vous ?
Mais en fait, ce Festipop, il a été imaginé en juillet 2023 lors d'un séminaire interne de la Ligue de l'Enseignement FAL 53. Il a été co-construit ensuite avec la ville de Laval, notamment par le biais de la maison de quartier du Pavement, qui est très investie dans le projet depuis ses débuts. Et puis également par d'autres associations d'éducation populaire en Mayenne, comme les Franca, Culture du Cœur, Monde de Femmes, les PEP 53, Accueil et Espoir 53, et également le Conseil citoyen de la ville de Laval. Donc toutes ces personnes regroupe des associations, des collectivités, des habitants qui ont à cœur les mêmes objectifs. Ce sont ceux donc de promouvoir l'éducation populaire pour mieux comprendre ce qu'elle recouvre et reconnaître son rôle citoyen et politique encore actuellement. L'idée aussi, c'était de valoriser les initiatives locales de transmission, de savoir et de savoir-faire. Il y en a beaucoup. Et elle contribue à mailler le territoire d'initiatives solidaires et d'éducation populaire, finalement, sans forcément le savoir. Et l'idée, donc, comme je l'ai dit en nommant les différents protagonistes de cet événement, c'est de fédérer les structures autour d'un événement collectif.
Et alors le rendez-vous qui nous est donné, c'est donc le samedi 27 septembre à partir de 10h30 et ce jusqu'à 18h, place Mettmann à Laval. Concrètement, qu'est-ce que les habitants donc, vont pouvoir découvrir le 27 septembre ?
Eh bien, tout d'abord, il y aura un vide-grenier. En fait, ce vide-grenier était habituellement organisé par l'association KFD, qui a été dissoute cette année. Et lors de rencontres d'habitants cette année, on s'est rendu compte que c'était un événement assez précieux et il y avait vraiment le souhait de poursuivre cette année. Donc, l'association Monde de Femmes, qui est présente sur le quartier, notamment avec la boutique Troc, va reprendre cet événement. Donc, ça sera dès 8h30 le 27 septembre. Et puis, on va proposer également un village associatif et citoyen qui regroupera des ateliers, des animations, des rencontres dès 10h, avec notamment des habitants qui proposent des ateliers de réparation de vélos, de construction de nichoirs, ateliers couture, des associations qui vont proposer un village des enfants, de la teinture sur tissu. Par exemple, des exemples d'ateliers qui auront lieu cette journée-là. Et puis, à partir de 11h30, il y aura une agora qui va durer un peu toute la journée sous la forme de tables rondes et de témoignages qui permettra de discuter de manière participative de l'éducation populaire et de thématiques aussi qu'on a choisi d'aborder plus précisément. Et puis enfin, on va clôturer l'événement par un concert d'une demi-heure de Pouvoir d'agir dès 17h.
Justement, je le disais en introduction un petit peu de cet échange avec toi, on vit dans une époque où beaucoup parlent de fracture sociale, de décrochage même démocratique. Pour toi, en quoi l'éducation populaire peut être une réponse justement à ce contexte-là ?
Bien, l'éducation populaire, c'est une réponse aux défis présents. On le voit depuis le début de l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Si j'ai le temps de faire un peu, de retracer un peu l'histoire de la Ligue au cours du 19e siècle, la Ligue de l'enseignement, ça a commencé par cette pétition par Jean Massé pour une instruction gratuite, obligatoire et laïque qui a regroupé 1 300 000 signatures quand même en 1866. Et puis derrière, la Ligue s'est positionnée autour des lois 1901 sur les associations, la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Après la guerre, la Ligue a contribué au développement des temps périscolaires, de l'école républicaine, des colonies de vacances pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de partir. Les enjeux ont changé, mais la logique reste la même. Aujourd'hui, l'éducation populaire, elle permet de répondre aux défis du présent. Aujourd'hui, on travaille sur le numérique, l'éducation à son usage pour un meilleur accès aux droits, sur la parentalité numérique, sur la prévention du harcèlement, la lutte contre les discriminations. Donc, c'est autant de thématiques qui nécessitent de faire du lien, de permettre aussi aux personnes de mieux comprendre, pour mieux agir et pour mieux s'émanciper. L'éducation populaire répond aussi aux besoins des habitants concrètement. Quelles sont les envies, quelles sont les attentes, quelles sont les problématiques Et l'idée, c'est d'apporter des réponses collectivement, donc en dotant les premiers intéressés d'outils lever leurs freins eux-mêmes, quoi. Voilà un peu pourquoi je dirais que c'est important aujourd'hui. Et néanmoins, l'éducation populaire, les associations d'éducation populaire aujourd'hui font face à des difficultés, notamment liées aux subventions de fonctionnement qui se tarissent. Il y a de plus en plus l'injonction à répondre à des appels à projets, à des appels d'offres, ce qui nous contraint parfois à moins expérimenter, à avoir moins de liberté d'innovation et à moins mettre aussi en avant notre ingénierie de projet. Ce qui fait que ça marche, c'est toujours l'engagement bénévole et salarié. Comme je disais, cette capacité à se renouveler, qui est permanente. Et ce projet de formation des citoyens qui est toujours aussi clair, mais voilà, il y a aussi des difficultés et des enjeux actuels pour valoriser l'éducation populaire qu'on va aborder le 27 septembre, notamment lors de l'Agora.
Quand on parle de démocratie, on pense souvent aux urnes, mais justement la Ligue de l'enseignement, comme tu as pu nous l'expliquer, va au-delà de ça. Toi qui es chargée justement de projets jeunesse, tu penses qu'il est aujourd'hui peut-être important aussi de redonner aux jeunes le sentiment d'avoir leur place, retrouver sa place peut-être dans une société qui est un peu fragile et où on a des jeunes en perte de sens peut-être aussi, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, je pose souvent la question en débat mouvant auprès de différents publics. La participation politique des jeunes doit-elle être encouragée? Et souvent, la réponse est assez mitigée. Les enfants, déjà, c'est catégorique, c'est non, ils sont pas capables. Et les ados, ça dépend. Il y a toujours débat parce que les ados seraient influencés par leurs parents. Donc, en fait, ouvrir une participation politique aux adolescents, ça serait juste des personnes endoctrinées par leurs parents. Donc, finalement. La première pensée, c'est le vote, mais à chaque fois j'élargis en disant je parle de participation politique, je parle pas de droit de vote. Et là s'ensuit le débat autour de qu'est-ce que c'est la participation politique, qu'est-ce qui est politique, s'engager dans une association, est-ce que c'est une participation politique, le droit de décider au sein de son accueil de loisirs, est-ce que c'est pas déjà une participation politique à l'échelle des centres d'intérêt, des lieux de vie des enfants? Donc à chaque fois, voilà, le débat s'enrichit en déplaçant le curseur de qu'est-ce que la participation politique, on sent que il y a peut-être des préjugés aussi qui rentrent là-dedans sur ce dont sont capables de faire les adolescents et les jeunes adultes. Les enfants également, voilà, c'est encore plus difficile de l'intégrer, mais il y a déjà une capacité d'action si on lui permet d'exister et de se développer. Et donc, c'est aussi une thématique que va exploiter les Francas lors du village associatif du 27 septembre.
Tu parlais tout à l'heure de numérique, puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, on est dans un monde très numérique, très connecté. Est-ce qu'il est possible justement de rendre l'éducation populaire attractive et crédible pour les nouvelles générations via le numérique?
La Ligue de l'enseignement propose justement autour de la place Mettmann un espace de médiation numérique qui s'appelle Môle numérique, qui déjà le fait de maîtriser l'outil numérique et ses propres outils à la maison, quel qu'il soit, pour faire des démarches, pour s'informer, pour réagir. Enfin, c'est un levier d'expression citoyenne et c'est l'éducation. On voit aussi que l'éducation aux médias et à l'information est essentielle pour éveiller l'esprit critique. Donc, c'est complètement un sujet phare de l'éducation populaire et aujourd'hui qu'exploite la Ligue de l'enseignement. On verra comment cette thématique peut exister lors du festival, puisqu'il y a encore des réponses d'associations qui arrivent à ce sujet. Mais on va peut-être parler de numérique aussi le jour du 27 septembre.
Et alors, on parle de développer son esprit critique, et forcément, j'ai un peu envie de faire un focus sur les trois tables rondes qui auront lieu. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu les trois thématiques qui seront abordées sur trois temps différents ? Ça permet à l'auditeur un peu de se repérer et peut-être déjà noter le rendez-vous.
Oui, déjà à 11h30, donc on commence ce temps d'agora avec une première question simple déjà, qu'est-ce que l'éducation populaire ? Avec un temps participatif qui s'intitule « Transmettre, agir, s'entraider, et si c'était ça l'éducation populaire ?» Et puis, à partir de 14h, enregistré d'ailleurs par l'autre radio, il y aura un nouveau temps intitulé « Quel modèle économique pour les associations d'éducation populaire ?» Donc, c'est un format table ronde avec des personnes qui ont été identifiées aussi par le groupe de travail pour aborder cette thématique-là. Et puis, à 15h30, on aborde une dernière thématique. Peut-on réconcilier l'éducation populaire et la culture ? Et toutes ces tables rondes seront ponctuées aussi par des récits d'initiatives, des témoignages de personnes qui ont mené à bien des projets d'éducation populaire ou qui sont dans une posture, une démarche d'éducation populaire.
Et alors, ce qui est important pour cette journée, c'est aussi d'avoir justement une dimension festive. Il y a aussi le concert de pouvoir d'agir à 17h ce jour-là. L'idée, c'est de créer un temps accessible à tous, une journée accessible à tous. On rencontre des associations, on rencontre des habitants et on se pose des questions ensemble.
Complètement. L'association Pouvoir d'agir, c'est une association... de pères aidants, donc ça veut dire que elle accueille des personnes qui ont des troubles psychiques et qui viennent trouver dans l'association un accompagnement par d'autres personnes qui ont des troubles psychiques et non pas des professionnels, notamment médicaux, qui évitent aussi le rapport descendant de sachant et d'apprenants. Mais donc la pair aidance, c'est une dynamique d'éducation populaire aussi. C'est assez différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de rencontrer, parce que c'est vraiment sur le lien humain et dans le champ de la santé mentale. Donc c'était aussi intéressant de pouvoir laisser la place à Pouvoir d'agir de donner ce petit concert. Et concernant cette place pour tous, c'est vrai que autant avec le vide-grenier qui vient d'une demande d'habitants organisée par une association locale que par les ateliers qui seront proposés, l'agora où on est plus dans un temps d'écoute réflexif, le concert, il y aura vraiment des manières différentes d'expérimenter l'éducation populaire et de se rendre compte que en fait elle fait plus partie de notre quotidien qu'on le croit et qu'elle a une dimension émancipatrice et politique, peu importe la manière de s'exercer.
L'accès au Festipop, est-ce qu'il est gratuit ?
Oui, tout à fait. Et alors, il n'y aura pas de restauration et de buvette assurée par nous-mêmes sur place, parce qu'il y a aussi des commerçants sur la place qui proposent leurs services également le samedi. Et puis, exceptionnellement, le Belvédère, qui est le restaurant d'insertion Place Mettmann, sera ouvert et aussi pourra proposer ses services. Donc, vous êtes aussi le bienvenu sur le temps du déjeuner.
Si l'auditeur de l'autre radio veut retrouver notamment par exemple les thématiques des différentes tables rondes ou retrouver l'ensemble des associations présentes, où est-ce qu'on peut retrouver ça ?
Sur le site de la Ligue de l'enseignement FAL53 pour Fédération des associations laïques de la Mayenne. Voilà, sur le site de la Ligue, vous pourrez retrouver la programmation du Festipop.
Okay. Eh bien, merci en tout cas Florine d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Margot.
Mimi, on est à l'antenne.
Tant mieux, je t'aime plus fort quand ça s'entend.
On va maintenant écouter Sam Sauvage avec les gens qui dansent. Il sera sur la scène du 6x4 demain soir à 20h30. Juste après la pause, on changera de décor, des pas de danse aux zones humides avec Nicolas Boileau pour comprendre comment leur restauration devient un outil d'adaptation au changement climatique. Mais pour l'instant, musique.
Les gens pressés dans le métro qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y'a les gens qui crient tout le temps, tout le temps. Ceux qui sourient de temps en temps. Et y'a les gens qui dansent partout et n'importe comment. J'adore. J'adore. Y'a les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y'a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y'a les gens qui dansent, partout, et n'importe quand. N'importe quand. J'adore.
Alors on les a parfois asséchés, comblés, oubliés. Pourtant, les zones humides sont parmi nos meilleurs alliés face au dérèglement climatique. Elles retiennent l'eau en période de sécheresse, amortissent les crues en cas d'inondation et abritent une biodiversité précieuse. Dans le cadre du mois du climat, le syndicat du Javot propose une animation pour redécouvrir leur rôle le 27 septembre au Bourgneuf-la-Forêt. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Nicolas Boileau. Vous êtes le directeur du syndicat. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle beaucoup de sécheresse et d'inondation. Pourquoi remettre les zones humides au cœur de cette conversation sur le climat ? En quoi c'est essentiel ?
Ben, vous en avez parlé dans le propos introductif. En fait, on avait un peu oublié que les zones humides étaient un peu à l'image de la forêt amazonienne, déterminante pour la régulation du climat. Et à mesure que le climat se dégrade et que les phénomènes extrêmes s'amplifient, parce qu'une sécheresse, ce n'est rien d'autre que l'autre facette de la pièce d'une inondation, hein, c'est le même phénomène mais qui a des conséquences différentes, mais qui, c'est vraiment, on parle du même phénomène en fait. On avait un peu oublié, en dehors des spécialistes, que les zones humides, elles avaient cette fonction de régulation de ces deux événements et qu'elles nous permettaient, outre d'avoir une activité de production, on pouvait élever du poisson, on pouvait faire pâturer des bovins, on pouvait faire différentes activités agricoles peu rentables, en tout cas jugées peu rentables dans l'histoire de l'agriculture, mais en tout cas elles existaient. Elles rendaient service à un très grand nombre d'habitants dans un passé plus ancien. On avait un peu oublié cette fonction de régulation du climat, et lorsqu'on est affaire à des sécheresses chroniques, de plus en plus longues, de plus en plus intenses, de plus en plus rapprochées, on s'aperçoit que tout le monde fait le constat qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, il n'y a plus d'eau dans les étangs, il n'y a plus d'eau nulle part. Et cette eau, on a moyen de la conserver, on a moyen de la garder, l'eau météorique, l'eau qui va tomber, ou l'eau du sol que l'eau produit, que les sources produisent, on a moyen de la garder. La meilleure façon de la garder, c'est pas de creuser une bassine et de la remplir, c'est de la stocker dans les zones humides, où elle va effectivement, comme vous l'avez dit, l'hiver... c'est une éponge, une zone humide, c'est-à-dire que l'hiver, une éponge sèche au départ, elle va absorber l'eau et se remplir, et puis lorsqu'elle est pleine, à la fin de l'hiver, eh bien, elle va se mettre à restituer l'eau qu'on a stockée. Alors on peut soit l'utiliser pour différentes fonctions, mais le plus souvent elle va se déstocker naturellement, se dessécher naturellement sous l'action de la végétation et du soleil, et restituer au cours d'eau le débit qui manque, et permettre la vie biologique, permettre le maintien des activités. Donc ce rôle clé qu'on a un petit peu perdu de vue dans nos sociétés très modernes. C'est moins le cas dans beaucoup de pays en développement, mais chez nous, on a un peu perdu cette distance. Voilà, c'était l'occasion, dans le cadre du mois du climat, de présenter des exemples concrets, puisque en Mayenne, on n'a pas de très, très, très grandes zones humides, hein, mais on en a beaucoup de petites. La Mayenne, c'est un pays de source.
Justement, j'allais vous demander concrètement sur notre territoire, quand on parle de zones humides, comment on les reconnaît, où est-ce qu'elles se trouvent ?
Alors, on a, on va dire schématiquement, deux types de zones humides. On a quelque chose qui est familier, peut-être à l'esprit du public, c'est la tourbière, dont on connaît le nom, c'est pas forcément à quoi ça ressemble, mais en tout cas, voilà, qui est un sol saturé d'eau, où pousse une végétation très spéciale, qui met des milliers d'années à se constituer. On en avait beaucoup, mais on en a beaucoup perdu. Il en reste quand même, surtout dans le nord du département. Et puis l'autre type, c'est plutôt des zones humides de fond de vallée, au bord des cours d'eau le plus souvent, où on a des prairies humides, où on a des sources qui rejaillissent. Alors en Mayenne, on est un pays de sources, je le disais, c'est-à-dire que c'est le chevelu hydrographique, le linéaire de cours d'eau est très très important en Mayenne. On a beaucoup de ruisseaux, beaucoup de sources, mais on n'a pas de grandes zones humides comme on peut avoir dans la vallée de la Loire, comme on peut avoir en Loire-Atlantique par exemple, Grand Lieu, etc. On est doté d'une multitude de petites. Et c'est ça aussi qui fait l'oubli, en fait, parce que quand vous habitez en Sologne ou dans des zones voilà, très marécageuses, où on a des grands marais qui sont encore en surface importante, évidemment, l'activité s'organise autour d'eux. Nous, en Mayenne, on a affaire à plutôt des petites zones humides. Hein. C'est de quelques dizaines de mètres carrés à quelques hectares, bien souvent au maximum. Et donc, on a un petit peu perdu de vue la fonction de ces zones plus petites, mais c'est le cumul de ces zones qui vont bien sûr faire un effet à l'échelle du climat qui nous intéresse.
Est-ce qu'on peut dire que restaurer une zone humide, c'est investir dans une infrastructure naturelle de protection du territoire ? C'est un peu ce qu'on cherche à...
C'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire que la nature nous offre des services gratuits, bien mieux fait et surtout bien moins cher que ce que pourrait faire la technologie humaine, à condition de lui donner les capacités de le faire. Donc notre objectif, c'est pas de, effectivement, c'est de remettre en état des zones ou de leur redonner des fonctionnalités. La fonctionnalité, c'est l'éponge, hein, pour faire très simple, c'est cette capacité d'éponge, et ensuite de la laisser travailler. Et ça, sur le long terme, c'est gratuit. Alors au début, il y a un petit investissement, quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, mais sur le long terme, on est gagnant parce que, évidemment, le service, on dit le mot très savant, c'est écosystémique, c'est-à-dire le service que rend la zone à l'écosystème en général, dont nous faisons partie, nous, les hommes, il est x10, x100, x1000, enfin, c'est même sur le long terme incalculable, ce service qui est rendu, et surtout gratuitement. On a toutes les technologies pour faire, hein, par exemple pour filtrer l'eau, pour la rendre potable. On sait le faire même à partir d'eau très polluée, mais ça nous coûte extrêmement cher. Et donc cet argent, on voit bien aujourd'hui qu'il manque, qu'on ne peut pas en dépenser à tort et à travers. Et on a cette chance, un peu partout, mais particulièrement en Mayenne, de pouvoir compter sur ce réseau hydrographique. Il faut le restaurer, il faut le maintenir en l'état. Et il nous rendra bien des services.
Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous nous disiez, ce sont des espaces avant dont on prenait soin. À un moment, ils ont été vus peut-être comme inutiles. Pourquoi ils ont été si longtemps mal considérés et oubliés finalement ? Comment s'est fait cette bascule ?
Alors, il y a eu deux périodes pour faire un peu d'histoire des zones humides. Il y a eu la période un petit peu hygiéniste, où on a vu les zones humides, alors c'était le développement de la médecine, c'était le développement du progrès, hein, et on a vu les zones humides comme des zones à miasmes où il y avait des maladies, notamment le paludisme, hein, en Europe, qui reviendra, mais ça c'est une autre histoire. Et donc ces zones, on a tout fait pour les drainer, pour les assécher, parce qu'on les voyait, c'était ce qu'on a appelé le courant hygiéniste, comme des zones, voilà, c'était la médecine qui était porteur de ça, comme des zones dangereuses en fait pour l'homme. Et puis la seconde évolution, c'est vraiment après-guerre, où l'agriculture de production se met en place dans toute l'Europe, et puis là, c'est vu comme des espaces peu rentables. Où on peut faire du maraîchage, on peut faire du pâturage, mais enfin, on cherchait à produire et en quantité. Et ce n'est pas une critique, hein, que voilà, c'était le constat de l'époque, c'était la volonté politique de l'époque. On cherchait à produire parce qu'il fallait nourrir une population qui augmentait fortement. Et ces espaces étaient vus comme des espaces peu rentables. Donc, on avait les moyens technologiques pour les drainer, les transformer, les assécher, pour les mettre en culture. Et on a perdu beaucoup, beaucoup de zones humides partout, hein, selon les chiffres, voilà, entre 50 et 80% des zones humides ont été dégradées ou détruites par cette mise en culture, parce que voilà, on avait d'autres objectifs et ils ne répondaient pas aux besoins, sauf dans des zones bien particulières où une activité agricole ou de production s'est maintenue, mais c'est quand même pas la majorité.
Comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre regard pour passer justement de cette image de terrain perdu à terrain précieux ? C'est important aujourd'hui de le rappeler, de sensibiliser peut-être les collectivités, mais aussi les habitants.
Alors les collectivités, en tout cas en Mayenne, où il y a une politique de l'eau ancienne et quand même très innovante. Enfin, en Mayenne, on a tous les niveaux des collectivités. Je pense que c'est dans l'esprit des élus. Après, c'est plutôt, effectivement, lutter contre le fait, j'ai une zone humide, je peux rien en faire. En fait, moi, j'entends souvent, le fond de mon champ, là, c'est trempé, je peux rien en faire. Alors, à une époque, c'était la populiculture. On donnait de l'argent pour parce qu'il fallait absolument valoriser, en fait. Donc, on ne comprenait pas que cet espace, il ne serve à rien. Enfin, il ne sert pas à rien, évidemment, mais en tout cas, il y a aussi la période où on a planté massivement des peupliers dans les fonds de vallée pour rendre cette zone productive. C'était toujours cette recherche de dire, mais ce n'est pas possible de laisser des espaces sans rien faire. Je dirais que ça évolue. Alors, ça évolue à la fois parce que l'agriculture voit plutôt toujours ces espaces comme des zones improductives où on a de la réglementation sur des espèces protégées, une contrainte en fait, c'est du surface perdue un petit peu. C'est quand même un peu moins le cas, notamment aussi parce que le contexte réglementaire a fait que ces zones, on les a enfin protégées et qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus faire et qui limite aussi les actions de dégradation. Donc à la fois un petit peu sous la contrainte et à la fois parce que ça évolue lentement mais sûrement, on y fait plus attention ou en tout cas on les respecte, on fait avec. Pour le grand public, c'est autre chose parce qu'il n'est pas souvent propriétaire de zones humides, c'est souvent du parcellaire agricole, inséré dans un parcellaire agricole, et donc effectivement, lui, sa relation avec ces espaces, elle se fait soit pendant son temps de loisir, soit des cas particuliers, ou soit on voit le cours d'eau, on voit le plan d'eau, sans imaginer que c'est pas ces espaces-là qui nous apportent cette fonction, mais que c'est bien des terres qu'on sature en eau, puis qu'on assèche et ce cycle recommence. Et donc D'où, par exemple, sur le Bourgneuf-la-Forêt, le cas concret de restauration qu'on a mené sur des terrains communaux et d'aménagement au sens large de plusieurs zones qui ont pour vocation de prévenir les inondations et de lutter contre la sécheresse.
Justement, si on dit quelques mots peut-être sur cette animation proposée le 27 septembre dans le cadre du mois du climat, vous venez de le dire, au Bourgneuf-la-Forêt, quoi doivent s'attendre les participants ? On se rend sur place et on discute ?
On se rend sur place, on va cheminer tout en discutant, parce qu'il y a trois zones qui sont réparties dans le bourg, alors qu'ils sont à 10 minutes à pied les unes des autres, mais sur lesquelles on a, avec la commune du Bourgneuf, depuis une petite dizaine d'années, traiter le sujet, à la fois en cherchant à restaurer donc des fonctionnements naturels, fondés sur la nature. Ce qui est intéressant dans le cas du Bourgneuf, c'est que c'est assez concret parce que il y a directement des résultats observables, notamment sur la prévention des inondations, puisque la restauration de zones humides et d'espaces de divagation des eaux nous a permis, par exemple, de protéger le centre-bourg inondable jusqu'à des événements violents de récurrence 30 ans ou plus. Et, Et les Bourneviens, mais il y aura peut-être des gens à l'extérieur de la commune, mais les Bourneviens connaissent bien cette situation. Quand il y a des orages violents, maintenant c'est un peu la règle, eh bien, de ces montées d'eau rapides et puis de ces ruissellements, de ces déversements. Donc la zone humide nous sert à tamponner ces effets de phénomènes extrêmes qui, malheureusement, on voit bien, hein, la fréquence augmente, l'intensité augmente et qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à... Il fait beau maintenant, dans 2 heures, qui sait, on peut avoir 50 mm d'un coup et se retrouver dans une situation de péril, en fait. Donc voilà, parfois, restaurer les zones humides, bon, on voit un espace. Là, c'est vraiment très concret et ça éclairera, je pense, même des néophytes.
Le rendez-vous que vous donnez, c'est le 27 septembre, donc au Bourgneuf-la-Forêt. C'est le syndicat du Javot qui organise cet événement. Mmh. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le rôle de ce syndicat ?
Alors, le syndicat, il a sur le territoire de Laval-Aglo, d'une partie des Couévrons et d'une partie de Mélégré, la compétence GEMAPI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la compétence GEMAPI ? Nous sommes responsables de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Avant, cette compétence était un peu distribuée entre... différentes institutions, différents strates du millefeuille administratif. Et depuis 2018, cette compétence, elle est recentrée autour d'un seul organisme. Alors, ça ne veut pas dire que le maire n'a pas son petit pouvoir, le préfet a bien sûr des pouvoirs, etc. Mais c'est nous qui exerçons cette compétence, notamment sur le Bourgneuf, on dépend de Laval-Aglo. Donc, Laval-Aglo nous transfère cette compétence. Et donc, nous sommes chargés de restaurer, d'entretenir les milieux aquatiques, de les surveiller et de lutter contre les inondations, d'assurer une politique de prévention des inondations, donc sur l'ensemble du territoire qui nous est confié.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le rendez-vous, on disait que c'était le 27 septembre au Bourgneuf, quel est l'endroit précis ?
9h, le parking qui se trouve route de Vitré, à côté de la place de la Tannerie.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Donatien, il pourrait partir d'une chaussure oubliée sur un trottoir et finir par vous parler d'un premier amour ou de lui-même ou des deux à la fois. Avec lui, la chronique, c'est comme un jeu de domino. On ne sait jamais quelle pièce va tomber, mais on sait que ça va dessiner quelque chose de beau. Écoutez.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Donatien a l'habitude de passer ses vacances en Bretagne. Il aime particulièrement les spots que certains sur les réseaux désignent comme les Caraïbes bretons. Pour ne citer que quelques exemples, la plage de l'île Vierge, accessible en kayak près de Morgat, la plage de la Grève Blanche sur l'île de Bas, la plage des Jacobins à Roscoff ou celle au nom plus exotique de Rospicot au sud de Pont-Aven et tant d'autres. Inutile et vain de les répertorier. Ces plages au sable blanc, elles sont trop nombreuses et cela nous priverait du plaisir incomparable de la découverte. Il est toujours possible, sur l'écran de la tablette, de contempler ces plages paradisiaques. Invitation à la baignade dans une eau claire que le réchauffement climatique a rendue moins saisissante. Mais il manquera toujours la caresse des nuages et les frissons du vent sur la peau, la piqûre du sel et les écorchures sous le pied des coquillages venus s'échouer sur la laisse de mer. Au cœur de l'après-midi, allongé sur la serviette étendue sur le sable, Donatien s'endort rapidement. Certes, bercé par le bruit des vagues, mais surtout enveloppé d'une symphonie aux variations quotidiennes. Selon la marée, selon le temps, la tonalité emporte dans ses accords les pleurs d'enfants, les cris d'adolescents, les bruits de raquettes et de ballons frappés, les voix d'hommes habituellement graves transposées sur la tessiture plus légère des vacances, le claquement des voiles des bateaux et des cerfs-volants, les rires qui éclaboussent. Dans ses rêves, Donatien voyage et s'endort. Il entend sans comprendre 1000 personnes, peut-être plus, qui discutent sans parler, qui entendent sans écouter. Une chanson lui vient qu'aucune voix n'a encore partagé. Après ce concerto, quand les choristes ont déserté la plage, Donatien reste souvent seul et le calme et le silence redonnent du volume au ressac, aux cris des goélands reprenant leur territoire. Un appel au loin, un prénom, Paul ou Simon. Paul Simon, peut-être. Et plus rien. Assis. Un guitariste depuis la dune s'accorde à la mer descendante. Il semble à Donatien l'entendre chanter la chanson même qu'il a entendue dans son rêve, et la voix murmure des mots à travers les sons du silence.
Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas, mais un soir une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus, entends-tu tout bas la voix du silence. Je m'en suis allé promener, les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir, et le vent et la mer doucement me parlaient. J'entendais chanter la voix du silence, et depuis j'ai vu bien des gens qui jetaient des mots à tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter, ou composaient des chants que nul point n'a repris, et leurs cris ouvrent la voix. Plus les fleurs, ils en ont pris des rides au cœur. Ils espèrent en faisant du bruit meubler le vide de leur vie. Et mes mots tombent sans un bruit en goutte de rosée, étouffées comme la voix. Je n'ose pas te parler, de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour tu comprendras, tu m'entendras crier les mots.
C'était La Voix du silence, interprétée par Marie Laforêt. Voilà pour aujourd'hui, c'était l'agité du local. Merci à Florine d'avoir été à notre micro. Merci à Nicolas Boileau, merci Donatien et Lénaïque Folzour qui signent la musique originale de cette émission. Merci aussi à l'auditeur d'avoir tendu l'oreille. Je vous laisse avec la suite des programmes de l'autre radio. On commence la soirée à 19h avec Au Catering. Pour la rentrée, l'équipe s'est mise à l'abri, à la fosse. Partage, découverte, accord et désaccord, ils sont prêts pour une nouvelle saison. À 21h, place à Frères de Chaussures. Attention, l'émission s'écrit avec un accent circonflexe, s'il vous plaît, et c'est avec autant de précision et d'exigence qu'elle nous parle de rap français. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. On parlera de sclérose en plaques au féminin avec Nicolas Delamarre de Mayenne CEP à l'occasion des deux conférences organisées le 4 octobre à Laval. D'ici là, laissez cette journée trouver son rythme, pas besoin d'en faire trop pour qu'il soit juste. S'il vous plaît aussi, faites le bien.
Allez, on vous laisse tranquille.
Mais on revient demain, ne nous oubliez pas.